Chapitre 9. Le régime. Avoir le père Isoard, chef de la scénographie, accompagné de Raymond Houdeline, promener à travers les salles du Palais Bourbon sa longue barbe allégorique, sa tête nue, rase et soyeuse comme le pelage d'une souris blanche, son alpaga flottant et ses pantoufles brodées de cafetier de la Canebière, tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, députés, questeurs, garçons de service, huissiers de la chambre, auxquels il demandait en passant, de son plus beau creux méridional, des nouvelles du citoyen Marc Javel, tous se sentaient saisis, même n'ayant rien à lui répondre, d'un besoin d'expansion et de belle humeur. Jusqu'à la majesté de l'ancien logis des 500, jusqu'aux gestes de marbre et de bronze décorant ses cours et ses portiques, qui semblaient se familiariser, détendre leur raideur, devant cette amusante et loyale figure de Marseillais faisant les honneurs de la chambre à son jeune ami. Comme il traversait le salon de la Croix, un garçon de bureau, à boutons dorés et parements rouges, lui jeta de loin « J'entends que vous cherchez le ministre de la Marine, mon bon monsieur Isoard. »« C'est vrai qu'il est ministre !» songea tout haut le scénographe. Le garçon continua, lisant l'ordre du jour de l'officiel. Bureau 6 et 7, commission des courriers postaux. Ministre de la Marine et des colonies, convoqué à 1h30 pour renseignements à fournir. Il a son portefeuille depuis 2 jours, ses renseignements doivent être tout frais. Et le gros rire du Marseillais roula contre les parois sonores de la salle où sont peints en grisaille de mirifiques fleuves à barbe qui semblent tous avoir eu Pierre Isoard pour modèle. Ce jour-là, il y avait réunion de 1h à 2h dans les bureaux de la chambre. Autour de la salle des séances, qui ne devait s'ouvrir qu'à 2h, dans les innombrables couloirs et vestibules dont son majestueux silence s'environne, c'était le bourdonnement, l'agitation que font les abeilles autour de la ruche avant le travail. Des pas affairés sonnaient sur les dalles, députés en retard se hâtant de gagner leur commission, employés chargés de paperasse, passant la plume à l'oreille avec cet air important, préoccupé, ce gonflement des veines frontales qui fait partie, ainsi que la sandarac et les grattoirs, du matériel de l'administration. Quelquefois, dans un coin de salon ou de galerie, le colloque à voix basse de 2 têtes rapprochées, l'échange furtif de 2 poignées de main qui sont comme un engagement, une signature au bas d'un traité. En frôlant un de ces couples interlopes, le vieux scénographe glissa dans l'oreille de Raymond. « Tu n'as pas reconnu le gredin dont nous venons de gêner le trafic ? Regarde du coin de l'œil, sans te retourner. Des accroche-cœurs et la barbiche Louis XIII. Tu ne te rappelles pas ? Siméon, le neveu du questeur, l'ancien prétendant de Geneviève, qui n'a pas voulu de ma filiette pour 10 000 francs qui lui manquaient. » « Parfaitement, j'y suis. » Sans remarquer l'embarras de Raymond quand on parlait de Geneviève, Pierre Isoard continua. « Siméon est marié aujourd'hui, et richement marié. Pourtant, il garde son emploi de comptable à la chambre. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'à la caisse, il est mieux placé que personne pour connaître les députés besogneux, ceux qui ont des oppositions sur leur traitement et dont la conscience ne tient plus qu'à un fil d'hameçon. Ses renseignements lui sont payés cher. Rien qu'en passant, j'ai deviné ce qu'ils étaient en train de manigancer, lui et Jacques Walter. » Ce long et macabre squelette à la boutonnière fleurie, le nez crochu, les lèvres et les paupières peintes. Ce Walter et l'agent, l'homme de paille de la nouvelle compagnie transocéanienne, dont on examine justement les soumissions à ses 6e et 7e bureaux où nous allons attendre Marc Javel. Il doit y avoir dans cette très nombreuse commission une demi-douzaine au moins de pauvres diables dont Siméon a pu dire à Walter en toute assurance « Allez-y, mon petit Jacques ». Peut-être même le rapporteur se trouve-t-il sur la liste des besogneux présentés à l'agent par le comptable, car les 2 compères rayonnaient quand nous avons croisé leurs têtes ignobles. Et comme Raymond s'indignait qu'un aussi abominable commerce puisse s'exercer librement en plein corps législatif, « Ah, mon pauvre petiot, dit le vieux, il s'en fait bien d'autres dans ces couloirs que nous traversons. C'est la pourriture de l'argent qui nous gagne. » Depuis 5 ou 6 ans, depuis la mort de Gambetta, qui, s'il n'empêchait pas le trafic, serrait la vis aux trafiquants, la chambre a pris le mal, comme on dit chez nous. Sans doute, les braves gens ne manquent pas, mais ils se taisent. Moi, je ne peux pas me tenir, car Quand je trouve à la porte des bureaux quelques balayeurs comme ce Walter, j'ai envie d'appeler le poste. Mais je sens bien qu'à donner de la voix continuellement comme je fais, à rouler des yeux de chat sauvage, je fatigue tout le monde. Et comme j'ai mes 60 ans bien sonnés, ce qu'on va me fendre l'oreille un de ces matins. » Ils entraient dans une longue galerie du rez-de-chaussée, prenant jour par d'étroites fenêtres sur une cour plantée d'arbres aux reflets verdoyants. Une file de portes numérotées, derrière lesquelles s'abritait le mystérieux travail des commissions, faisait face à la cour mélancolique, à des banquettes de garçons de bureau, à des casiers où les députés déposaient leurs brochures, leurs serviettes. Lorsqu'une des portes s'ouvrait, on voyait uniformément, autour d'une grande table drapée de verre, un fauteuil, des chaises, des fronts assoupis luttant contre la digestion du déjeuner, pendant que nasillait une voix monotone, mêlée au gazouillis de moineaux errants. « Louis le Grand, les jeudis de retenue !» murmurait Raymond Meudeline, qui avait ses sensations de lycée encore toutes fraîches. Comme il passait devant le bureau numéro 2, commission du divorce, un hideux gnome en sortait, trapu, déjeté, la bosse et les grands traits narquois de polichinelle sur un teint de jaunisse et de fièvre. « Ça va, monsieur Caduf ?» dit le vieux Pierre Isoa, s'écartant respectueux pour laisser de la place. Le nain eut un rictus diabolique de ses lèvres lipues. « Si, ça va, mon bon Père Isoa, mais avec la loi complémentaire que je suis en train de leur faire avaler, avant 10 ans d'ici, le mariage français devant monsieur le curé et monsieur le maire, quick, quick !» Il imita le célèbre geste en bois coupant de polichinelle assassin et disparut au tournant de la galerie en fredonnant une chanson provençale à refrain obscène. « Il est bon, là, le Caduf, avec son quick-quick. Comment me rattraperai-je, moi, si on supprime le mariage ?» Celui qui parlait, Robert de Fabry, joli brun au ton fauve, était un ami de Wilkie, le témoin de son récent duel et le plus jeune député de la Chambre où l'avaient envoyé les électeurs de la Guadeloupe. Princeps Juventutis. À celui-là aussi, l'ancien professeur donnait cette appellation virgilienne, plein de sympathie pour la bravoure du créole et son jacobinisme exalté, exacerbé, comme tout ce qui vient des colonies. Mais cette sympathie coûtait cher au Père Isoa, car il n'existait pas, il ne s'était jamais trouvé dans le palais Bourbon, un joueur, un tapeur de la force de ce jeune Robert Macaire. Ah, mon vieux maître! Il se jetait sur Pierre Isoa et l'arrachait au bras de Raymond, qu'il feignait de ne pas reconnaître, bien qu'il eût rencontré 20 fois avec Wilkie. « Ah, ma vieille barbe, mon vieux Adji de 48, quelle joie de vous revoir, quelle chaleur au cœur vous me donnez, où se retrempe, se renouvelle mes jeunes croyances !» Et de tout près, dans l'oreille, « Auriez-vous 10 louis à me prêter ?» Un nom très énergique secoua la petite tête rase et blanche. « Pas pour longtemps, vous savez. Avant la fin de la session, ces 10 louis et leurs petits aînés vous seront restitués très exactement. » Pour être plus loin de Raymond et des garçons de bureau, il avait entraîné le sténographe dans l'embrasure d'une fenêtre entr'ouverte et lui expliquait qu'il venait de lire son rapport à la commission avec un succès énorme. « Quelle commission ?» Du monocle sautillant au bout de ses doigts, le créole montra le fond du couloir. « Bureau 6 et 7, nouvelle messagerie de Montevideo, Buenos Aires. Une partie magnifique qu'à l'instant même le ministre de la Marine achève de nous gagner. » Pierre Isoa enfonça ses gros sourcils. « Est-ce qu'il passera à la caisse de Jacques Walter, celui-là aussi ?»« Pourquoi pas ?» dit le créole, laissant voir ses dents blanches trop écartées. « C'est de l'argent qu'il n'aura pas volé. Si j'ai 50 000 francs comme rapporteur, ce n'est pas trop que le ministre en touche 100 000. » Il y eut un silence que piquaient les 1 000 pépiments des moineaux. Brutalement, le vieux s'arracha de la fenêtre. « Monsieur de Fabry, vous êtes un cynique. Vous venez de calomnier un homme que je persiste à tenir pour très honnête, un républicain de la belle époque, incapable de toute vilenie. Voilà vous 10 louis, jeune homme, et qu'on ne vous retrouve jamais. » La face enflammée, les yeux hors du front, il tira de son pantalon à la hussarde, de la belle époque lui aussi, une poignée d'or sonnant à même sa poche, avec ses clefs, sa montre, ses breloques, son couteau, et d'un geste de dégoût, les jeta dans la main de mendiant, fine et gantée, qui s'était tendue vers lui. Puis, prenant le bras de Raymond, « Arrive, mon petiot, le ministre en a encore pour du temps. Allons l'attendre dans la salle des pas perdus. » Et il entraîna avec lui dans l'emportement de sa colère. « Qu'est-ce qui lui prend donc au père Isoard ? Il devient maboule ? Il faudra qu'il soigne ça. » Ces mots proférés à voix haute pour les huissiers témoins de la scène, le jeune député glissa les pièces d'or une à une dans son gilet et, sa caisse faite, tourna sur les talons en allumant une des exquises cigarettes russes que son amie, la princesse Nadalov, venait de lui adresser à la buvette avec une boîte de caviar. On fumait beaucoup à la chambre cette session-là. On fumait dans les couloirs, dans les bureaux. Surtout les députés de la génération de Gambetta, les hommes entre 35 et 50, plutôt que les très anciens ou les tout jeunes. À ceci, Robert de Fabry faisait exception à cause de son origine coloniale. Un autre détail saisit le jeune de Ligne, qui n'avait jamais visité le palais Bourbon aussi minutieusement que ce jour-là, ou quand ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Pour leur colloque dans les couloirs, dans les péristyles, les députés, en se promenant, avaient tous la même façon d'envelopper leur interlocuteur, un bras sur son épaule, la tête penchée, l'allure protégeante, endoctrinante. Cette familiarité ne déplaisait pas, venue de haut, d'un leader de la Chambre, d'un des quatre ou cinq chefs de claque qui mènent toute la comédie parlementaire. Et tout à coup, Raymond se souvenait qu'à l'association des étudiants, dans le comité des 33, dès qu'on avait une confidence à se faire, le genre était le même de causer en se tenant par l'épaule. « De quoi ris-tu ? » demanda le vieux père. Renseigné, il monologua, fourrageant sa longue barbe blanche. « Oui, député, le bâton de maréchal de la jeune bourgeoisie, le pouvoir dont rêvent tous les bacheliers de maintenant. Au fait, je m'en veux d'avoir été si brutal avec ce petit de Fabry, un gamin qui n'était jamais venu à Paris avant son élection et s'est trouvé sans défense contre les tentations de Paris. Ses électeurs me semblent plus coupables que lui. Imbécile qui confie la direction d'un grand pays, sa législature, à un jeune homme de 25 ans dont la vie est une page blanche toute lisse, à qui l'expérience n'a pas donné ses coups de griffe, visibles au coin des yeux, à la commissure des lèvres, et 100 fois plus significatif que le cachet d'une faculté au bas de quelques diplômes. Décidément, j'ai eu tort. Ce n'est pas sur Fabry qu'il fallait passer ma colère. Il y a la bande à Cadouf, à Barnet, à Valfond, ce ramasse de traitants et de jouisseurs qui ne sont au corps législatif que pour bâcler des affaires, qui trafiquent de leur vote et dont le plus grand crime est encore d'abaisser un peu plus chaque jour le niveau des consciences, de corrompre l'air autour d'eux. Cela, oui, on pourrait s'exercer dessus, leur tanner le cuir en long et en large. Ah, les malandrins, ce qu'ils sont en train de faire de cette chambre et ce que cette chambre fera de notre pays !» Il s'animait en parlant, sa claironnée méridionale vibrait dans les hauts vestibules, malgré quelques petits avertissements de Raymond, lui pressant le bras, baissant la voix pour le rappeler au diapason d'une causerie à deux. « Entre nous, maître Isoard, tout à fait entre nous, « est-il vrai qu'il y ait des policiers au corps législatif ?»« Comment ça, des policiers ? Voudrais-tu dire des députés à la solde du préfet de police ou du directeur de la sûreté ?»« Ça n'y pas bionné. Il ne nous manquerait plus que cette infamie. » Le Marseillais restait cloué sur place de stupeur et d'indignation. Presque aussitôt, avec la mobilité, l'impressionnabilité de sa race, il secoua son saisissement. Après tout, la police est assez plate pour se glisser n'importe en quel endroit. Est-ce que je t'ai raconté mon aventure au club Barbès en 48 ? C'était dit avec l'intonation timide, inquiète, des pauvres vieux qui demandent grâce pour leur rabâchage. Et Raymond se résignait à écouter encore une fois, après tant d'autres, l'histoire du club Barbès. Mais ils arrivaient dans la salle des pas perdus où quelques jeunes gens, en train d'écrire devant une table, à l'entrée, saluèrent au passage le vieux scénographe d'un affectueux brouhaha qui coupa court à son récit. « Eh, voilà le vieux vitupérateur ! Vive la sociale, citoyen Isoard ! Faille tirant, Marius, si Paris avait une canne-bière !» Le Marseillais, distribuant de vives ripostes et de fortes poignées de main, passa sans s'arrêter. « Ce sont des journalistes, » dit-il aux jeunes de Lille qui l'entraînaient. « De bons garçons, bien qu'un peu veulent d'âme et d'esprit. On en rencontre même qui sont honnêtes. Mais en général, l'air des couloirs leur est néfaste comme à tout le monde. » Raymond s'étonnait de voir son vieil ami perpétuellement hérissé. « Enfin, monsieur Isoard, vous êtes républicain pourtant. »« Républicain de la bonne, républicain de 48, comme ton père. » « Et vous n'êtes pas content? Pourquoi ?»« Parce que les Français ne savent se servir de rien, qu'ils cassent tout. Sans doute l'outillage de la République était excellent, il avait si peu servi. Mais nous l'avons faussé tout de suite. » Autour d'eux, dans la vaste galerie dallée lambrissée de marbre, s'entendait un vague bruissement de foule, comme dans une église ou un musée, un va-et-vient d'honorables qui discutaient de long en large en se tenant hiératiquement par l'épaule, ou bien sur un banc, la causerie confidentielle d'un député avec quelques électeurs de grande marque qu'il n'avait pas voulu recevoir dans la salle à côté, où l'on fait entrer les menus clients, le fretin. « Viens par ici, garçon !» dit le vieux en entrant dans cette seconde salle. « Je te disais tout à l'heure qu'en France, les républicains ne savaient pas se servir de leurs outils. Tu vas voir l'affreuse blessure que le pays est en train de se faire avec le suffrage universel. » C'est tout le sang de ses veines qui s'échappe par là, par cette ouverture, tiens !» Il montrait une barrière en bois comme au guichet des théâtres, séparant la galerie où il se trouvait d'un grand hall vitré et bruyant, envahi par le public. À chaque instant, un huissier de la chambre, debout devant la claire-voie, passait à un autre, assis à une petite table près de l'entrée, la carte d'un électeur avec le nom du député qu'il voulait voir. Un troisième garçon de service allait chercher ce député, l'appelait de salle en salle. Pierre Isoard, très connu de tout le personnel, n'eut qu'un signe à faire à l'huissier Loustalet, tête blanche et toute crépue, pour qu'il leur laissât une place à côté de sa petite table. « Ces messieurs seront au premier rang pour voir la comédie, » murmura Loustalet, épongeant la sueur de son front et de ses joues, aussi rouges que les galons de sa casquette. Les premiers à passer étaient précisément des gens de son endroit, les Restoubles de Régalon, Var. Restouble l'aîné, propriétaire du Café des Blancs et concessionnaire de la gendarmerie, était mort voilà plus d'un an. Depuis, le propriétaire du Café des Rouges s'était fait donner le logement des gendarmes, une ruine pour la pauvre Madame Restouble. Car les Blancs ne consomment pas la moitié comme les Rouges et son café ne lui rapportait guère. Voyant cela, les deux frères de son mari, l'un curé de Régalon, l'autre secrétaire de la commune, avaient mis en wagon avec eux la bonne dame et sa petite, bien décidés à ne retourner au pays qu'après que M. Trescol, le député conservateur, aurait fait attribuer à la pauvre femme la location qu'il aidait à vivre ou une compensation. Aussi, avec quelle angoisse on l'attendait, l'honorable M. Trescol. Et quel coup de scène quand sa longue et erronienne silhouette d'ancien procureur de la République à Draguignan se dressa derrière la claire-voie, fronçant un grand nez dédaigneux sous son binocle au vert fumé et regardant tour à tour d'une même grimace effarée la carte où resplendissait le nom des Restoubles et la petite, habillée de vert et de jaune, qu'une dame à tête de cheval lui présentait en hennissant. « Que me veulent ces personnes? Je les ignore absolument !» disait avec énergie la mimique de M. Trescol. Du coup, le curé de Régalon s'approcha de la barrière, flanqué de son frère, le secrétaire de la mairie. Ces deux messieurs prirent l'enfant chacun d'une main et, présentés par des électeurs de cette importance, je vous réponds que l'honorable Trescol l'eut vite reconnu, la petite demoiselle Restouble. Le délicieux changement à vue. Maintenant, il souriait, penchait sa longue taille, tapotait les joues, le menton à fossette de l'enfant, lui faisait des risettes qui n'allaient guère à son binocle noir, à ses austères favoris de vieux Robin. À la fin, il les précédait tous dans la galerie voisine, où l'on serait bien mieux pour causer. Et pendant qu'il défilait, la tête haute, derrière la claire-voie, la foule des électeurs toujours croissante les regardait avec envie, faisant passer à l'huissier de nouveaux noms, appelait d'autres députés, toujours d'autres députés, et encore. « Que dis-tu de ce travail de sangsue? demanda le vieux père, revenu avec Raymond dans la salle des pas perdus. « Tu penses bien qu'on ne va pas rendre la gendarmerie au Café des Blancs, puisqu'elle est passée depuis des mois au Café des Rouges. C'est donc un bureau de poste ou de tabac qu'il faut pour Madame Restouble, sans compter que les frères n'auront pas fait le voyage pour rien. Le secrétaire, tout près de sa retraite, demandera une perception. Le prêtre coûtera plus cher encore, car c'est le premier entraîneur de l'écurie Trescol. Et cette pillerie, cette curée à laquelle nous assistons depuis 5 minutes, va durer jusqu'à ce soir et elle recommencera demain, jusqu'à ce que la session finisse, qu'une autre s'ouvre après celle-là, jusqu'à ce que la France épuisée n'ait plus une goutte de sang dans les veines. » Ils firent quelques pas en silence dans la vaste galerie où les députés affluaient plus nombreux à mesure que la séance approchait. Le nouveau ministre de la Marine était sans doute resté à la commission, car personne ne l'avait encore aperçu. Tout en regardant autour d'eux, Raymond Eudeline posa cette question à son vieil ami. Que faudrait-il faire, selon lui, pour assainir le régime, le rendre meilleur ? Oh, bien des choses, mon enfant, mais avant tout, fermer la chambre 2 ans, 3 ans. Les Français apprendraient pendant ce temps à chercher leur vie ailleurs qu'à dans le garde-manger de l'État. Je fermerai les portes de la chambre, mais bien entendu, je garderai les fenêtres ouvertes pour donner de l'air, pour tout purifier, car il y a la peste dans ce palais Bourbon. Les pierres y sont contaminées autant que les hommes, et voilà pourquoi le mal se propage si vite. Tais, tu le vois là-bas, notre nouveau ministre de la Marine et des Colonies ? Avise s'il n'est pas en train d'attraper quelques mauvaises lèpres en ce moment. » Appuyé au socle de l'Aocoon, dont le bronze verdâtre et douloureux se tordait à l'une des extrémités de la salle des pas perdus, Marc Javel, bedonnant et cossu, redingote noire et pantalon gris, avec son air confortable et ses gestes souples d'homme de sport, très entouré, savourait la joie de son premier portefeuille, n'ayant été jusqu'alors que sous-secrétaire d'État. Robert de Fabry et Jacques Walter, qu'il entretenait avec ardeur, s'écartèrent discrètement en voyant venir le père Rasoir, comme l'appelait le jeune député de la Guadeloupe. « Deux aigrefaines dont je vous débarrasse. Remerciez-moi, monsieur le ministre !» ricana le doyen de la sténographie. « Allons, allons, un peu d'indulgence pour la jeunesse, maître Isoard !» Ce n'était qu'une nuance, mais on sentait que le ton, les manières de Marc Javel, se haussaient à sa nouvelle grandeur. Un doigt de socle ou deux s'intercalait sous les pieds de l'homme d'État. Ce fut surtout visible à l'accueil solennel fait à Raymond que le Marseillais lui présenta. « Le fils de leur camarade Eudeline, un républicain comme on n'en voit plus. » « Je me suis en effet rencontré quelquefois avec monsieur votre père, » dit le ministre, insistant sur le monsieur et jetant au jeune homme, ainsi qu'à un subalterne et à un inconnu, le petit bonjour du sommet de la tête qui interdit toute réplique. J'ai gardé le souvenir d'un fidèle soldat de la République. » Le vieux, dont la barbe commençait à fumer devant cette réception de satrape, l'interrompit nerveusement. « Victor Eudeline et vous, monsieur le ministre, autant que je me rappelle, vous étiez dans la même loge, et à nos fameux dîners du vendredi saint, quand vous n'occupiez pas le fauteuil du président, c'est Eudeline qui vous remplaçait. » Il faut dire qu'en ce temps-là, on les manquait rarement, ces festivals protestataires de la libre pensée, tandis qu'aujourd'hui... » Le ministre sourit en effilant sa moustache. Effectivement, il ne s'en cachait pas. Cette protestation du Vendredi Saint lui paraissait maintenant enfantine, surtout choquante pour les générations nouvelles qui ne pensaient pas comme leurs aînés. « Tenez, mon cher maître, à cette place même, il y a un instant, je causais avec un de nos plus jeunes députés. Ajoutons un des plus honnêtes, » marmonna le vieux fleuve dans sa longue barbe. Marc Javel continua, sans avoir l'air d'entendre. « Eh bien, monsieur de Fabry, ami de Wilkie Marquez et son témoin dans cette malheureuse affaire Jacquan, me racontait que, devant la gravité de la blessure, les témoins, des jeunes gens presque tous, avait d'un commun accord installé un prêtre et une sœur de Saint-Vincent-de-Paul au chevet du malade dont il savait respecter les croyances. Il y a là un fait très significatif. C'est vrai que de mon temps, les regards du vieux étincelaient. Quand nous avions une affaire, la calotte ne venait pas sur le terrain. En tout cas, croyez-moi, monsieur le ministre, ce Parlement peut couver des forces jeunes et nouvelles. Si la génération qui monte est bonne dieuzarde, le pays ne gagnera rien à la voir prendre le pouvoir. Nous avions des coquins, nous aurons des hypocrites. » Il s'exaltait, parlait fort. Les députés qui tournaient autour du ministre se rapprochaient avec des sourires hésitants, en expectative. Marc Javel eut un regard circulaire d'indulgence et de sévérité. « Vous parlez toujours de coquins, maître Isoard, mais où donc en voyez-vous tant que cela ?»« Il faudrait s'arracher les yeux pour ne pas les voir, monsieur le ministre. » Et avec l'intonation édentée et lyrique de Frédéric Lemaître, une gloire de son temps, le Marseillais déclama sur un geste d'emphase « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés !» Puis, montrant un gros personnage, blafard et glabre, qui s'avançait la tête en arrière, la redingote ouverte à deux battants, dans un sillage de courbettes frétillantes, il continua de sa voix naturelle « Voilà votre collègue Vouré, près de qui vous avez siégé ce matin au Conseil des ministres. Dirons-nous que c'est un honnête homme ? Quand cet ancien instituteur a pris les postes et télégraphes, il était pauvre et maigre comme un clou. À présent, regardez-moi cette couane, et riche à proportion. Il le deviendra davantage si la Chambre adopte son projet de loi pour la substitution du bronze d'aluminium à tous les anciens fils télégraphiques. Jacques Walter ne cache pas qu'il a des millions en réserve pour les bons pots de vignée de la Commission. » Il y eut dans les groupes un murmure désapprobateur qui encouragea le ministre à cingler son adversaire d'une petite phrase sèche. « Vous allez trop loin, mon maître. »« Trop loin ? Demandez donc aux jeunes de Ligne, dont la sœur est employée aux postes et télégraphes, de vous raconter comment vous réciprendre pour faire payer à l'État le loyer de la Casati, la jolie danseuse des Folies Bergères. Au bureau central de la rue de Grenelle, personne n'ignore le truc de la location. L'appartement splendide laissé à un prix dérisoire, pourvu que le ministre s'engage à louer pour le gouvernement. » Marc Javel haussa les épaules. « Est-il enfant, cet Isoard ? Est-il resté jeune ? Et si près de la retraite, cependant ?» Sans remarquer la pâleur qui éteignait subitement la verve du Marseillais à ce mot de retraite, il se tourna vers Raymond. « Voyons, jeune homme, le temps presse, nous allons entrer en séance. » Qu'avez-vous à me demander ? Était-ce la majesté de l'endroit, ce palais du Parlement aux larges baies inondées de lumière, les peintures du plafond, les murs glacés de marbre, ou bien encore le titre nouveau de Marc Javel et la morgue de son accueil, le socle enfin, le grandissement du socle ? Jamais devant son protecteur, Raymond n'avait senti une émotion, une intimidation pareille. Il voulut parler d'Antonin, du tirage au sort qui approchait pour le pauvre cadet, des responsabilités cruelles que le père avait laissées à l'aîné. Aucune de ses pensées ne trouvait d'expression convenable et les mots lui manquaient, il balbutiait comme son frère. À la fin, Pierre Isoard, revenu lui-même de son trouble, eut pitié du brave garçon. « Laisse-moi dire, mon petit, sans quoi tu ne t'en tireras jamais. D'abord, il y a des choses de la vie de ton père que tu ne sais pas, qu'il nous a confié en mourant, et que ta mère, M. Marc Javel et moi, nous sommes seuls à connaître. » Le ministre grimaça un soupir de condoléance. « En effet, je me rappelle le triste épisode auquel vous faites allusion. Pauvre Victor Edeline, en voilà un qui n'avait pas la taille des affaires. Il a toujours su mourir pour sauver ses enfants de la misère et du déshonneur. C'est assez joli comme hauteur de taille. » À peine sa riposte lancée, Pierre Isoard la regretta et, se faisant très humble, demanda au ministre s'il ne pourrait pas procurer au plus jeune des frères Edeline quelques-unes des faveurs que l'aîné avait obtenues si facilement, c'est-à-dire un an de service au lieu de cinq et toutes les facilités pour continuer à gagner le pain de la maison. Car il fallait bien en convenir, à dose égale d'énergie et de bon vouloir, entre Raymond, ancien prix d'honneur de philosophie au concours général, docteur en droit, licencié S-lettres, et Tonin, son cadet, pauvre ouvrier électricien, jusqu'à présent, l'ouvrier seul avait fait vivre tout son monde, fait œuvre de vrai soutien de famille. Il devait bénéficier de l'emploi en ayant supporté toutes les charges. Ah, vieux bavard illusionné, par quels moyens le faire taire ? Chacune de ces paroles était une morsure à l'orgueil du frère aîné, furieux maintenant d'avoir tenté cette démarche et qui le fut bien plus quand le ministre eut dit son dernier mot, savamment médité pour les députés de l'entourage. « Depuis une heure, mon cher maître !» Marc Javel se dandinait, prétentieux et suffisant, les pouces aux entournures de son gilet. « Depuis une heure, vous promenez ce jeune homme dans les couloirs de la chambre pour le convaincre qu'ils sont peuplés de gredins. Eh bien, moi, je veux qu'il emporte d'ici la preuve et la conviction que ceux qui font les lois savent les respecter et exiger qu'on les respecte. Comme fils aîné de veuve et soutien de famille, Raymond Eudeline avait des privilèges, des prérogatives auxquelles son cadet ne saurait prétendre. Qu'on n'espère donc rien de moi, pas l'ombre d'une faveur ou d'une recommandation. Ce serait une injustice dont je me sens absolument incapable. Là-dessus, messieurs, voici Monsieur le Président qui arrive, permettez-moi d'aller le saluer avant qu'il monte à son fauteuil. » Il leur donna congé vivement du bout des doigts et suivit l'élan de la foule qui remontait vers le fond où retentissaient des commandements militaires et la rythmique retombée des crosses de fusil sur les dalles. « À présent, c'est fini. Je le connais, le Marc Javel, » dit Pierre Isoard, prenant le bras de Raymond abasourdi. « Je comprends qu'il soit entré dans le ministère Valfond. Il est aussi fripouille que les autres. Mais il a de la souplesse qui leur manque et un aplomb qui le conduira plus loin qu'aucun d'eux. Quant à compter sur lui désormais, il faut que ta mère y renonce. » Mêlés aux députés et aux journalistes, les deux amis s'étaient rapprochés de la salle des séances, ouverte depuis un instant. Deux files de baïonnettes et de pantalons rouges allaient de l'entrée de cette salle jusqu'à la galerie qui menait aux appartements particuliers du président de la chambre. C'est par là qu'on le vit arriver, accompagné de deux officiers marchant à côté de lui, l'épée nue. Vrai type de président d'assemblée, il avait l'allure solennelle, le buste plus long que les jambes et des cheveux bouclés et grisonnants, auréolés des larges bords plats d'un haut de forme. Quand il apparut, tous les fronts s'inclinèrent. Une voix commanda « Portez armes !» Et dans l'écho des voûtes sonores, les tambours battirent au champ.